Merci Adrien. Pour cette présidence qui va vraiment dans le droit fil de ce qu'on va voir ce matin ensemble. Moi c'est Alex, je suis un des membres aussi de cette église et j'ai la joie de pouvoir vous apporter à la parole ce matin. Et comme Adrien l'a bien dit, le thème de ce matin c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu, rendre nos vies à Dieu. Et il s'agit bien, avant de prier ensemble, il s'agit bien de faire remarquer, comme Adrien l'a si bien rappelé, ce n'est pas en vue d'un paiement comme pour obtenir sa faveur. Non, c'est donner sa vie, rendre sa vie à Dieu en réponse appropriée à son salut que lui nous offre. Donc le titre de ce matin, comme vous pouvez le voir sur le feuillet, je vous invite à ouvrir le passage pour vérifier que vous soyez de nobles Béréens, mais aussi la structure que vous trouvez ici. Le titre, c'est « Rendons à Dieu, rendons au roi son dû ». Prions avant d'aller plus loin. Père Céleste, merci pour la clarté de ta parole. Tu es tranchant, ta parole, et cette épée qui tranche, qui va jusqu'au tréfond de nous, qui est inconfortable, mais qui est bonne pour nous. Si tu nous parles, c'est pour notre bien. Tu veux que nous vivions, que nous soyons réconciliés avec toi. Tu nous donnes ta parole en vue de cela, mais aussi en vue de ce que nous vivions, des vies qui te plaisent, des vies à ta gloire. Œuvre dans mon cœur, tandis que j'écoute ta parole, œuvre dans le cœur de chacun, chacune dans cette salle. Et ceci pour la gloire de ton nom. Amen. Quel type de leader préférez-vous? Après, quel type de leader aspirez-vous dans votre tréfonds? En juin 2024, dans quelques mois, il y aura les élections. Des élections européennes, fédérales, régionales. Et en vue des élections, évidemment, il va falloir qu'on réfléchisse à qui on va vouloir élire, n'est-ce pas? Quel genre de leader pour qui on va voter? Et évidemment, vos critères pour choisir le leader que vous voulez, c'est oui, selon les programmes qu'ils mettent en avant, les programmes politiques, les programmes des partis, ceux qui correspondent le plus à vos convictions personnelles, pour ce qui est de l'éducation, pour ce qui est de la gestion des finances parmi le peuple, l'écologie et d'autres domaines. Mais il faut dire qu'on a aussi un souci d'un minimum du caractère des leaders qu'on va élire. En effet, ils peuvent avoir les plus beaux programmes du monde, s'ils ne sont pas fiables, s'il n'y a pas un minimum d'authenticité dans leurs propos et dans ce qu'ils vont faire après, comment ils vont délivrer, comment ils vont agir selon s'ils ont été élus, s'ils ne sont pas un minimum vrais, honnête et juste, alors c'est normal qu'on soit désillusionné et qu'au final, on hésite même à aller voter. Peut-être qu'il se peut que vous soyez désillusionné suite à peut-être des scandales par ici, parmi les politiques ou ailleurs. Vous n'y croyez peut-être plus trop. Des politiciens ont perdu peut-être votre confiance. En effet, si, par exemple, il y a des dirigeants comme Outre-Atlantique qui ont peu de justice, peut-être à tous les niveaux, au niveau privé, personnel, de la vie privée, de leur gestion des finances, mais aussi au niveau politique, public. Et peut-être que leur parole est peu fiable. Beaucoup de mensonges qui se sont avérés par la suite, des fake news. Il faut dire que ça se passe assez bien par chez nous aussi. Si on avait ce type de leader qui allait être élu, on n'en voudrait pas. Pas fiable, pas juste, pas vrai. Non, parce que le type de leader auprès duquel on aspire tous d'une manière ou d'une autre, ce sont des leaders justes et vrais. Et c'est la même chose au travail, n'est-ce pas? Si on a des leaders, ou même à l'église, dans la famille. Quelles sont nos attentes? On attend de ce que les leaders soient justes, même si cela ne veut pas dire forcément que notre vie à nous, personnellement, individuellement, soit tout en rose. Non, on veut qu'ils soient justes envers tous, y compris nous, mais envers les autres aussi. On veut qu'ils soient honnêtes, authentiques, et c'est lié à la justice, n'est-ce pas ? Qu'ils se tiennent à ce qu'ils ont promis. Et qu'ils soient vrais. Qu'ils soient vrais, qu'ils ne disent pas ce qu'on veut entendre, même si cela serait des mensonges. Non, qu'ils disent la vérité, même si ça fait mal, même si ça déplaît. Et Jésus est ce roi juste et véritable. Il est ce roi juste et véritable auquel nous aspirons tous. Alors dans le texte de ce matin, et même dans cet évangile, l'entièreté de cet évangile, on arrive au chapitre 22 aujourd'hui, Jésus se montre être ce leader, le leader auquel nous aspirons tous. Juste et vrai. Et dans ce texte-ci, c'est clair, verset 15, n'est-ce pas, que les pharisiens ne l'aiment pourtant pas. Ils ne l'aiment pourtant pas, verset 15. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège. Ils veulent se débarrasser de lui. Ce n'est pas nouveau. Chapitre 12, verset 14, là aussi, ils tiennent conseil pour le faire mettre à mort. Et en fait, s'ils ne l'aiment pas, ce n'est pas parce que Jésus serait injuste, ne serait pas honnête ou authentique, ou qu'il serait méchant ou hypocrite, ou qu'il ne dirait pas la vérité. Non, s'ils veulent se débarrasser de lui, c'est justement parce qu'ils soulignent leur injustice. Ils ne mâchent pas ces mots. Ils soulignent leur hypocrisie par rapport aux hommes, leur injustice et hypocrisie par rapport aux hommes, mais aussi par rapport à Dieu. Au chapitre 1, 22, ce que nous avons vu jusqu'à présent, le roi Jésus se révèle, lui qui était le roi promis, face auquel on ne peut pas être indifférent, il juge tout être humain. Oui, son peuple avec le temple, mais c'est d'une certaine manière une capsule de ce qu'il fait pour toute l'humanité. Il juge tout être humain. Il juge son peuple, eux compris. Et eux, versets 23 à 27, s'opposent à son autorité royale. Ils le rejettent, cette autorité divine qu'il a de juger. Et puis Jésus, on a vu trois paraboles, n'est-ce pas ? Il prend ses leaders religieux, les pharisiens de notre texte, mais aussi d'autres, dont les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Il les prend pour cible au travers de trois paraboles. Trois paraboles au travers desquelles il montre à quel point ils sont infidèles, ils ne portent pas de fruits pour Dieu. Ils sont infidèles, ils rejettent le roi établi par Dieu. Ils sont infidèles, nous avons vu la semaine passée, ils méprisent le roi Jésus et son invitation à entrer dans son royaume gratuitement par la croix. Et en réaction à cela, les pharisiens, ces chefs religieux, que vont-ils faire ? Pour chacune des paraboles où Jésus les a pris pour cible, eux vont le prendre pour cible par trois questions pièges, trois questions controversées, dont on va voir la première ce matin ensemble, sur l'histoire des taxes, de l'impôt rendu à César, en vue de le piéger pour se débarrasser de ce roi qui les rend inconfortables, dont l'autorité fait concurrence à leur autorité. Mais ça ne va pas marcher, nous allons voir, ça ne va pas marcher. Jésus, par sa sagesse divine, va se défaire, va sortir de ses pièges. Il ne va pas être piégé. Il va clore cette séance de tir aux cibles par une question controversée qu'il leur enverra à eux, à laquelle ils ne sauront pas répondre. Plus tard dans le chapitre 20, à la fin du chapitre 22. Et au chapitre 21, versets 45 et 46, nous lisons après la fin de la parabole du vigneron. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens, ceux qu'on retrouve dans notre verset 15, comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, quand il parlait de leur injustice, de leur manque de fidélité, du rejet du roi. Ils cherchaient, verset 46, à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas juste, ou ne serait pas juste, ou pas vrai, qu'ils ne l'aiment pas. Non, c'est parce qu'il dit juste à leur sujet, en exposant leur manque de justice et hypocrisie. Il y a tellement d'ironie dans notre texte, nous allons vous considérer ça ensemble, tellement d'ironie dans les paroles flatteuses des pharisiens, n'est-ce pas? Au verset 16, voyez ce qu'ils disent? Toute l'ironie là, ce piège qu'ils vont tendre à Jésus pour se débarrasser de lui, même s'ils ne croient pas ce qu'ils disent, ils disent vrai au sujet de Jésus. Verset 16, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, ou littéralement, tu es vrai, et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. » Vous voyez, en fait, là, ils sont en train de flatter Jésus pour le prendre au piège en parole, verset 15, pour qu'il baisse sa garde et qu'il réponde oui ou non, qu'il soit pris dans le piège et qu'il se fasse avoir. Mais dans ce qu'ils disent, ils disent vrai, même s'ils n'y croient pas, évidemment, eux, personnellement. Jésus est vrai, il est le chemin, la vérité incarnée. Ses paroles sont vraies concernant notre condition de pécheur, mauvais devant Dieu, notre cœur mauvais. Il enseigne la voie de Dieu selon la vérité, que nous ne sommes pas bons, nous ne pouvons pas être assez bons que pour mériter Dieu. Qu'il faut que lui fasse le nécessaire en Jésus pour nous rendre acceptables, pour nous donner la paix avec lui-même. Il ne se laisse pas influencer, il ne regarde pas l'apparence des gens. Il se laisse influencer par personne. Tellement différent de nous, n'est-ce pas? Tellement différent des autorités politiques qui, face à des gens puissants, impressionnants, changeraient les choses. Changeraient leur programme, n'agiraient pas en conséquence. Tellement différent. Donc Jésus n'est pas comme nos dirigeants, qui sont souvent ô combien défaillants. Il n'est tellement pas comme nous. Et qu'est-ce que c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Alors si vous avez suivi les prédications depuis quelque temps, vous l'aurez certainement constaté, Jésus est le type de leader que on voudrait tous, dont on a tous besoin. Il s'est montré juste et véritable. Et si vous n'avez pas pu suivre toutes ces prédications, prenez le temps de retourner sur YouTube et d'écouter quelques prédications. Vous allez découvrir que Jésus est ce leader juste et véritable qu'il nous faut tous, après lequel nous aspirons tous. Quand on y pense, pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas de ce leader-là, de Dieu incarné, juste et véritable, ce Dieu qui est venu prendre soin de nos âmes? Avant de voir en détail le piège que les pharisiens tendent au verset 17, c'est important d'apprécier encore plus l'ironie qu'il y a dans ce texte. On a vu l'ironie en ce qu'ils disent et ne croient pas est vrai concernant Jésus. Mais cela souligne non seulement la vérité concernant la personne de Jésus, mais aussi la vérité les concernant eux. Leur propre méchanceté, verset 18. Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ?» Oui, ils sont méchants, ils tendent un piège, ils tentent le roi humble qui est venu servir. On a vu ça quand il entre à Jérusalem sur un ânon, ça indique qu'il vient pour servir. Et ce verbe, verset 18, Pourquoi me tendez-vous à un piège? En fait, c'est pourquoi me tentez-vous? C'est le même verbe qui est employé au chapitre 4 quand Satan tente Jésus dans le désert. C'est un piège machiavélique, mais profondément méchant, parce qu'ils veulent s'attaquer au roi qui vient pour t'en donner la solution à notre problème du péché. Il vient pour sauver des pécheurs comme nous, vous et moi. Quelle méchanceté, n'est-ce pas? Et quelle hypocrisie! Il pose une question par rapport à l'impôt, et on voit verset 19, « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Ils lui présentent une pièce de monnaie, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils en font usage. Et s'ils en font usage, qu'est-ce que ça va forcément dire? Mais qu'ils vont payer l'impôt, sinon ils auront des problèmes. Quels hypocrites! Quels hypocrites! Méchants et hypocrites qu'ils sont, vous voyez? La réponse de Jésus qu'il commence à donner avant de parler, de répondre à la question en tant que telle, il souligne toute l'ironie là. Tu es véritable, tu es vrai, tu enseignes selon la vérité, tu ne fais attention à l'apparence de personne, c'est vrai. Mais quelle méchanceté, hypocrisie. Ce sont pourtant des leaders. Quel type de leader voulons-nous? Préférez-vous? Oui, cette hypocrisie est là. Ils haïssaient l'impôt et ce qu'il représentait, cet impôt. Mais ils utilisaient avec joie cette monnaie offensante tout en payant l'impôt. Ils veulent prendre Jésus en piège en demandant s'il faut, oui ou non, s'il est permis, oui ou non, de payer l'impôt. Ils essayent de le prendre au piège. Considérons justement ce verset 17. Ce piège machiavélique qu'ils tendent au roi Jésus, juste et véritable. Verset 17, « Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ?» Alors, pas dans le sens que, est-ce que c'est permis de manger de la glace ou non. Non, est-il permis devant Dieu? Est-ce qu'il faut devant Dieu? Évidemment, la question n'est pas, est-ce que c'est permis selon la loi romaine? Non, c'est il faut le faire selon la loi romaine. Leur question, c'est plutôt, devant Dieu, le Dieu du peuple d'Israël, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Et vous voyez aussi le piège, oui ou non? C'est une question fermée. Alors, s'ils répondent oui, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Jésus sera considéré comme collaborateur de l'ennemi romain, un traître du peuple de Dieu, et donc de Dieu lui-même. Sa popularité va chuter, en conséquence la popularité des pharisiens va croître, et le peuple sera contre lui, le peuple d'Israël. Et donc à nouveau pour les pharisiens qui avaient perdu la popularité suite à la venue de Jésus. Et certains seraient peut-être même allés plus loin. Les zélotes, pour les zélotes par exemple, payer l'impôt c'était un badge de déshonneur, de soumission aux païens. Ça incitait quasi au paganisme. Parce que sur la pièce, le denier, qu'est-ce qu'il y avait écrit? Tiberius César, fils du divin Auguste. Et l'autre côté de la pièce, chef des prêtres. Pour certains zélotes, c'était inciter le peuple à être contre Dieu lui-même, à vénérer l'empereur. Question piège. Si oui, il est piégé. Sinon, ben, Jésus serait, s'il ne faut pas payer l'impôt, il serait rebelle aux Romains, un traître. Il serait considéré comme étant insoumis aux Romains. Et donc une menace politique, vu sa grande popularité, n'est-ce pas? Et là, il serait à coup sûr arrêté, voire même mis à mort par les Romains, afin d'étouffer toute potentielle insurrection. Il est pris au piège. Dans les deux cas, oui ou non, Jésus sera juste de l'histoire passée. Et ceci sans même que les pharisiens soient considérés comme coupables, malgré leur méchanceté devant le roi. Mais dans sa sagesse divine, Jésus ne tombe pas dans le piège. Il ne dit pas ni oui ni non. En fait, nous allons voir, il répond oui indirectement. Tout en affirmant que payer l'impôt ne signifie pas être infidèle à Dieu, comme les pharisiens veulent le sous-entendre. En fait, on va voir que répondre oui, qui est en train de répondre oui, mais en mettant sa réponse dans le cadre d'une vie d'adoration à Dieu. Alors, voyons, premièrement, rendons à César ce qu'on lui doit. C'est ce qu'on voit dans le verset 20 et le début du verset 21. C'est la réponse de Jésus, n'est-ce pas ? Il demande de montrer la pièce, verset 19, et il leur demande, de qui porte-t-elle l'effigie ? Ou de quelle image est-ce qu'il y a sur la pièce ? Et l'inscription. Et ils disent, de l'empereur. Et donc, Jésus leur répond, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur. Comme la monnaie est faite à l'image de son créateur, de celui qui a pouvoir sur la monnaie, c'est-à-dire de l'empereur César, alors Jésus dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut lui rendre son dû au roi. L'impôt. Parce qu'on a joui justement de la monnaie qu'il a créée, sur laquelle il a pouvoir. Pour Jésus, utiliser la monnaie romaine ne signifie pas d'office vénération de l'empereur, au culte romain, à l'empereur. Non, il s'agit de reconnaître l'autorité politique de César et l'obligation de payer l'impôt. Plus largement, Jésus nous dit que tu ne peux pas bénéficier du système monétaire, ni pas non plus des autres services que l'État met à ta disposition, sans payer des impôts. Si les Juifs jouissent des chaussées romaines, alors ils ont beaucoup souffert, oui, sous les Romains, il faut le dire. Mais ils ont aussi pu bénéficier de pas mal de choses de l'Empire romain. S'ils jouissent des chaussées romaines, s'ils jouissent d'un système d'éducation judiciaire, de la protection des invasions des ennemis, eh bien Jésus dit, c'est normal de payer les impôts. Et idem pour nous, si nous jouissons du système routier belge, français, etc., des allocations familiales, des indemnités de chômage ou autres, les nombreuses indemnités que nous avons en Belgique, eh bien il est normal de payer les impôts. J'ai pris un euro. Malheureusement, je n'ai pas la tête du roi belge parce qu'il y a plein de leaders en Europe. Mais le principe est le même. La réponse de Jésus est un rappel de cela. Et ainsi, en affirmant ce qu'il dit au verset 21, Jésus déclare que la soumission aux autorités politiques est généralement voulue par Dieu. Et ici, on va considérer, pour aller un peu plus loin sur cette thématique, on va considérer ce que Pierre nous dit, non pas de par ce qu'il nous enseigne dans sa première lettre, mais aussi de par son vécu. La soumission aux autorités politiques est généralement voulue par Dieu. En 1 Pierre 2, versets 13 à 17, vous pouvez lire ça à la maison, 13 à 17, 1 Pierre 2, versets 13 à 17, on va juste lire les versets 13 à 14. À cause du Seigneur, vous voyez, hein, le lien avec la soumission au Seigneur. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi. Et ici, petite pause, il parle à des chrétiens qui sont à Rome. C'est utile de le dire. Donc, soumettez-vous à toutes les institutions établies par les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui, par Dieu, pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Alors même si certains rois et gouverneurs et autres dirigeants politiques n'agissent pas toujours ainsi, c'est-à-dire pour le bien, pour approuver ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal, il faut dire que cette réalité est généralement vécue, surtout dans nos contrées. Et ce texte nous dit que Dieu les a établis pour le bien de la société. Et ceci, même les dirigeants qui ne craignent pas. Et même ici, l'exemple de notre passage, c'est César lui-même il faut se soumettre d'une certaine manière à son autorité en payant l'impôt. Et donc, application directe et principale de ce texte, d'une certaine manière, c'est payons tous nos impôts, toutes nos taxes. Alors, en entendant ça, on a tendance à penser à des raisons pour lesquelles on ne pourrait pas ou on ne devrait pas, des excuses. La question de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on serait tenté de ne pas payer l'impôt? Et je pense qu'il y a différentes raisons. Il y a trop de taxes, peut-être. Ou les leaders, nos leaders sont avares, eux-mêmes, ils sont trop payés, et moi, je gagne peu, et donc pourquoi je vais donner plus? Alors là, on pense, dans cette pensée-là, on pense que ça revient à lui. Mais non, on alimente le système pour le bien de la population. Gardons ça à l'esprit. Mais rappelons-nous, surtout et avant tout, que Dieu veut qu'on soit soumis à nos autorités politiques. 1 Pierre 2, versets 13 à 17. À cause du Seigneur. Au niveau toujours des taxes, par exemple, vous aurez imaginé, peut-être que c'est arrivé récemment, ou ça arrivera bientôt, ou dans un certain temps, vous avez des gros travaux à la maison. Et vous avez plusieurs entreprises qui vous présentent des devis, assez salés, hein. Peut-être ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ils vous présentent un devis et puis ils vous disent, entre nous, et vous connaissez la suite, si on le fait au black, ça sera un peu moins salé quand même. La tentation, c'est d'aller de l'avant avec cela, parce que ça nous arrange. Mais Dieu veut que nous obéissions, nous soumettions aux autorités, ne pas les voler, l'État, que nous payions toutes nos taxes. Et je pense que ça dépasse les taxes. Évidemment, le verset 1 Pierre 2, verset 13 à 17, c'est se soumettre aux institutions établies par les hommes. Pas juste au niveau des taxes. Ici, nous, notre texte parle des taxes, mais on peut l'élargir un peu plus. Et je pense que Dieu veut que nous respections les autres lois du pays. Posons-nous la question. En voiture, quand est-ce qu'on a du mal à respecter les lois, les règles, les lois du pays? Par exemple, les limites de vitesse ou l'usage du GSM. Peut-être qu'on a du mal à respecter cela parce que ça ne nous arrange pas. On est en retard, peut-être. On sait qu'il n'y a pas de radar. On doit communiquer quelque chose en route parce que c'est urgent. Ou ne pas payer son transport en commun, peut-être. Ou d'autres choses. Pensez à d'autres lois du pays auxquelles Dieu veut qu'on se soumette, mais auxquelles nous résistons parce que ça ne nous arrange pas. Pensez aux lois, ça vaudra la peine de réfléchir à ça pour l'application personnelle. Pensons aux lois pour lesquelles notre allégeance à Dieu ne serait pas compromise si on s'y soumettait. Je vais redire ça. Pensez aux lois pour lesquelles notre allégeance à Dieu ne serait pas compromise si on s'y soumettait. Parce que Pierre lui-même, de son vécu, on retrouve en Actes 5, c'est lui, il nous enseigne au travers de 1 Pierre 2, verset 13, qu'il faut se soumettre aux autorités locales, mais il y a des circonstances dans lesquelles il ne faudrait pas se soumettre aux autorités locales, aux autorités humaines. Il ne faudrait pas le faire quand l'allégeance à Dieu est compromise. Au chapitre 5 de Actes, on voit que après avoir été emprisonné, parce qu'il parle de Jésus, il partage, il prêche la bonne nouvelle de Jésus pour que d'autres soient sauvés. Ils sont libérés par Dieu lui-même de manière miraculeuse. Et puis ils vont dans le temple pour proclamer la bonne nouvelle. Et ensuite on les attrape, on les fait venir devant les autorités religieuses, telles celles du chapitre 22 de Matthieu. Et voici ce qu'on leur dit. Verset 27, « Après les avoir ramenés, ils leur présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. » En disant, verset 28, nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà ce que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Interdiction. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Évidemment, quand il s'agit de compromettre son obéissance, son allégeance à Dieu, alors n'obéissons pas aux autorités humaines. Il était bon que certains chrétiens, durant la Première Guerre mondiale, aient caché des juifs, et quand les autorités sont venues, ils ont peut-être mis des annonces officielles en disant « il faut remettre les juifs que vous cachez », ils n'ont pas obéi. C'était une bonne chose, n'est-ce pas? Si jamais les autorités humaines en venaient à obliger les églises évangéliques au mariage pour tous, c'est-à-dire au mariage entre deux personnes du même sexe, il ne faudrait pas obéir aux autorités, même si cela nous coûtait, parce que ce serait contraire à la volonté de Dieu. Ce sont des exemples extrêmes, mais prenez du temps pour penser à d'autres exemples. On va avancer. Parce que vous voyez, il répond à la question « oui », mais de manière indirecte. Il ne s'est pas fait prendre au piège. Mais ce « oui » à payer les impôts est dans le cadre plus large de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. De rendre au roi R majuscule son dû. La réponse de Jésus ne s'arrête donc pas là. Alors, comme la monnaie est faite à l'image de César ou du roi des Belges ou de quiconque, c'est-à-dire son créateur, celui qui a autorité sur la pièce, eh bien, comme c'est le cas, il faut rendre de la monnaie à l'empereur, il faut rendre l'impôt, payer l'impôt. Mais de la même manière, l'être humain, chacun d'entre vous dans la salle, chacun d'entre nous, est fait à l'image de Dieu, de son créateur, de celui qui a autorité sur nous, qu'on reconnaisse ou non. Et donc, il faut se rendre nous-mêmes à lui, se donner entier à lui. Peut-être que c'est évident pour vous, mais il faut noter que rendre à Dieu ce qui est à Dieu passe par, premièrement, reconnaître le roi qu'il a établi, c'est-à-dire Jésus. Ne rejetons donc pas le roi Jésus, accueillons-le plutôt. Et c'est clairement ce que les pharisiens ne font pas, n'est-ce pas, dans ce texte. Ils veulent se débarrasser de lui, ils veulent le prendre au piège. C'est ce qu'ils ne font pas, ils le rejettent Jésus. Et ceci même s'ils ont pu constater que Jésus dit vrai, et qu'il est véritable, et qu'il est juste. Non, s'ils veulent s'en débarrasser, c'est parce qu'ils dérangent. Ils les dérangent pour différentes raisons. Ils exposent leur méchanceté, comme on a vu, leur hypocrisie. Ils remettent en question leur autorité. Leur leadership, on a vu dans la parabole du vigneron, leur sera enlevé même par Dieu. Il est une menace pour eux. Et ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vivre comme ils le veulent, selon leur propre voie. Ils cherchent donc, avec cette question de l'impôt, ils cherchent des prétextes pour rejeter le roi Jésus, parce qu'il les dérange. Et je dois dire, travaillant moi-même avec les étudiants, je travaille pour les groupes bibliques universitaires à temps plein, et en des discussions avec des étudiants sur les campus, avec des étudiants qui ne sont pas chrétiens, je constate ça lors de discussions. Parce que je leur partage la bonne nouvelle de Jésus, ils entendent qu'il est juste et qu'il est véritable. Son offre de réconciliation avec Dieu est gratuite et ne peut pas être méritée. Et parfois, lors des discussions, j'ai l'impression qu'ils posent des questions, mais parfois, dans le fond, ils ne s'en préoccupent pas tellement. Parfois, pas toujours. Et donc, c'est un enchaînement, et quand je réponds à une question, c'est une autre question qui est posée, comme prétexte de rejeter Jésus, parce qu'il dérange. Et donc, un avertissement ici de Dieu pour chacun d'entre nous dans la salle, et si vous êtes visiteur, si vous êtes en démarche de découverte de la foi chrétienne. C'est oui, posez vos questions. Il faut être sûr Et je pense que la Bible vous donne beaucoup de raisons pour être sûr de la bonne nouvelle, que c'est vrai, qu'il y a de bonnes raisons d'y croire. Mais faites attention si ce sont des prétextes pour rejeter le roi. Cela révèle votre méchanceté, votre endurcissement. Le fait qu'au final, vous n'êtes pas préoccupé par s'il dit vrai au fond, mais c'est parce que vous voulez être le roi de votre propre vie. Et comme on a pu le voir avec les paraboles passées, les trois paraboles, vous êtes en grave danger. Et je ne vous dis pas ceci en vous pointant le doigt de manière hautaine et arrogante, je vous dis ceci comme quelqu'un qui a été gracié, qui a dû se rendre, qui a dû dire « je n'ai pas de prétexte, il me faut reconnaître la royauté de Jésus et que j'ai besoin de lui ». Cela dit, et ça passe par là d'abord, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. La réponse appropriée, comme on l'a vu avec Adrien, la réponse appropriée à la bonne nouvelle de Jésus, c'est de rendre à Dieu notre vie entière. Impôts, y compris impôts, et tout le reste. Et tout le reste. On va lire un dernier verset ensemble. Romains 12, verset 1. Et ça vient après Romains 1 à 11 où Paul, l'apôtre, nous dit la bonne nouvelle en gros, en long et en large, en quelque sorte. À quel point on ne peut mériter la réconciliation avec Dieu à cause de la grandeur de notre péché, de notre offense, de notre rejet de Dieu. Mais qu'il nous gracie, il nous donne ce qu'on ne peut mériter, la réconciliation éternelle avec lui. Et il dit quoi ? Je vous encourage donc, à la lumière de ce message, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu veut dire lui rendre notre vie entière, 24 heures sur 24, dans tous les domaines de notre vie. Alors en entendant cela, peut-être que vous estimez que c'est un peu de trop peut-être, c'est un peu exagéré. Comme beaucoup dans la société, certaines personnes ont tendance à considérer la foi ou la pratique de la foi comme une île dans l'océan de la vie. Quelque chose du domaine privé, pas public, qui se fait à un moment donné de la semaine ou de l'année. Que c'est une partie de la vie, mais pas toute la vie. Et cette île peut être plus ou moins grande en fonction de la force de conviction qu'on a ou la force de notre croyance. Et si on est chrétien, il se peut qu'on pense un peu de la même manière aussi, qu'il y a des moments où on fait des choses pour le Seigneur. On va à l'église, on se réunit en semaine avec des chrétiens, on a des moments de prière seuls durant la journée ou en famille ou avec des amis chrétiens. On fait preuve de bénévolence à différents moments de la semaine. On donne pour le royaume, pour le Seigneur, une part de notre argent. Et puis, à côté de ces moments qui sont pour le Seigneur, il y a des moments qui sont à nous, où on peut rendre des choses à soi-même. Mais non, la foi, la pratique de la foi, la vie chrétienne, c'est comme la croûte terrestre sur laquelle repose l'océan de la vie. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est lui rendre notre vie entière. Chapitre 12 de Romains, verset 1. Je vous encourage donc à offrir votre corps, votre vie, comme un sacrifice vivant. Ou notre texte, rendez à Dieu. Oui, payez votre impôt, parce que c'est ce qui est raisonnable, c'est ce qu'il faut faire. Rendez à César ce qui est à César, il y a son effigie dessus. C'est à l'image de l'empereur. Mais rends-toi toi-même entier à Dieu. Tu es fait à l'image de ton Créateur. Donne-toi entier à lui. Ça me fait penser à l'histoire de cette fillette qui avait entendu une prédication où l'évangile était clairement expliqué. Et lors de la collecte, le panier pour mettre de l'argent passe après la prédication. Et le panier arrive à elle. une pauvre fille, une petite fillette qui a, j'imagine, rien sur elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle le pose par terre. Elle se place dessus. Parce qu'elle a saisi que le culte approprié ou la réponse appropriée face à cet évangile glorieux, c'est se donner entier, corps et âme. Oui, une part de notre argent, mais entier. Et donc, ça nous fait réfléchir à l'usage de toutes nos ressources, y compris les heures de notre journée. Si on parle d'argent, Jésus parle de l'impôt à payer, oui, et c'est, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Mais la Bible nous parle ailleurs que l'offrande pour l'œuvre du Seigneur fait partie de la vie du chrétien. Mais ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, ou 2, je ne sais plus de mémoire maintenant, que le chrétien devrait travailler pour prendre soin de ses proches. Mais travailler, c'est en vue d'avoir de l'argent, n'est-ce pas? Et que cela, pour prendre soin de ses proches. Et donc, voyez l'usage qu'on fait de notre argent, payer les impôts, donner pour l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire spécifiquement pour que l'évangile soit proclamé, mais aussi utiliser notre argent pour notre famille, pour payer des vacances pour notre famille, etc. Ça se fait dans le cadre d'une vie de quelqu'un qui est racheté, qui vit pour Dieu. Et donc, on devrait scanner toutes nos motivations, soit pour donner une certaine proportion pour l'œuvre du Seigneur, et dans le Nouveau Testament, ça ne parle pas de dîme, de 10%, hein. Ça parle d'être généreux, mais aussi notre motivation dans pour les vacances, le paiement des vacances, le paiement de divertissement ou de produits qui donnent du divertissement, etc. Est-ce qu'il y a certaines de ces choses où on dit ça ne fait pas partie de la catégorie pour Dieu, c'est pour moi-même ça? Alors, ne me mécomprenez pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on prenne soin de nous-mêmes pour le repos n'est pas mauvais, un peu de divertissement n'est pas mauvais, etc. Mais pensons, dans le cadre de toute notre vie, pour ce qui est de l'argent, c'est tout ce que je fais avec mon argent, pas juste des obligations ou consacrer une part pour le Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur. Et on pourrait étendre ça sur d'autres domaines de la vie. Je regarde le temps que j'ai, je pense que ça, je n'ai plus le temps d'aller plus loin, mais on pourrait penser à la sexualité, c'est ce qu'on voit avec les Jébusiens. Lisez 1 Corinthiens 6, versets 12 et suivants. Vous verrez que vivre son célibat en tant que non-marié, c'est s'abstenir de la sexualité. Et c'est quelque chose de positif. C'est pour fuir l'immoralité sexuelle. Et la motivation donnée, c'est parce que notre corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais pour Dieu. On a été racheté à un grand prix. On est appelé à poursuivre la sainteté dans ce domaine-là. Et y compris quand on est marié, on devrait avoir une vie sexuelle active. Pas pour nous-mêmes, comme pour rendre à nous ce qui est à nous dans le mariage. Non. La raison donnée en 1 Corinthiens 7, c'est par souci de sainteté. Et évidemment, donc, c'est pour plaire à Dieu dans ce domaine-là. Vous voyez, la Bible parle de toute la vie comme étant un sacrifice vivant à rendre à Dieu en réponse à la bonne nouvelle. Voilà la réponse de Jésus, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à la question piège des pharisiens. Vous voyez verset 22 pour conclure, quelle est la réaction de ces pharisiens? Ils sont étonnés de ce qu'ils entendaient. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Quelle est votre réaction à la lumière de la réponse de Jésus à cette question piège? Pour conclure, est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes intrigué? Est-ce que vous êtes émerveillé? À ce verset 22, les pharisiens étaient étonnés. Mais c'était un type d'étonnement qui les poussait à revenir à la charge avec d'autres prétextes pour se débarrasser de l'autorité du roi. On va voir ça les semaines prochaines, les 2 semaines qui arrivent. Ne soyons pas comme eux. Matthieu veut nous dissuader de leur emboîter le pas. de trouver des prétextes pour se débarrasser du roi. Non, rendons plutôt au roi, R majuscule, son dû, en accueillant Jésus. Il est juste et véritable. Il mérite d'être reçu. Pour lui, notre vie vécue. Alors si vous n'êtes pas sûr d'être prêt ou de vouloir faire cela encore, revenez la semaine prochaine. Continuez à considérer les paroles de Jésus, la personne de Jésus, pour entendre les paroles qu'il vous adresse pour votre propre bien. Je pense que je vais laisser Kezia prier avec nous à la lumière de ce que nous avons entendu.